Eh bien, bonjour à tous. Ça va bien ce matin?
Oui.
Il fait un peu gris, mais c'est quand même l'hiver, il faut se rappeler. Hein. Bon, dans quelques jours, c'est le printemps, ça ira mieux. On va lire dans Romains chapitre 8, verset 29. Romains 8, verset 29. À 31. Ceux qu'il connaissait d'avance, c'est-à-dire Dieu, il connaissait certaines personnes d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. Donc, nous sommes prédestinés à devenir comme Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ soit le premier d'un grand nombre de frères. Alors, quand il y en a qui viennent nous dire que Dieu ne peut pas avoir de fils, eh bien, il a encore d'autres fils que Jésus, et même des filles. Les pauvres, ils ne savent rien. De plus, ceux qu'il a prédestinés, ceux-là, il les appela aussi. Et ceux qu'il appela, ceux-là, il les justifia aussi. Et ceux qu'il justifia, ceux-là, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Amen. Amen, amen. C'est magnifique. J'aime bien cette version. Quand vous connaissez le plan du salut complet, là c'est la huitième prédication sur ce thème, quand vous connaissez le plan du salut complet, que vous savez que Jésus n'est pas mort seulement pour que, quand vous mourrez, vous ayez une belle vie éternelle, mais que déjà maintenant, il y a beaucoup de choses, vous êtes sauvés de beaucoup de choses, eh bien vous savez que, vous avez été connu d'avance. Vous avez été connu d'avance. La Bible nous enseigne ça. Vous avez été connu par Dieu avant de venir sur terre, parce que vous existiez déjà. Et il vous a envoyé sur terre avec votre accord, donc ne venez pas vous plaindre de la vie que vous avez, c'est avec votre accord que vous êtes venu, et en sachant très bien ce que vous auriez à vivre sur cette terre. Et nous avons les difficultés normales qui sont adaptées à nos capacités. On n'est jamais éprouvé au-delà de nos forces. Ne dites pas « Oh, c'est plus fort que moi ». Non, nous avons les forces qui nous permettent de combler nos faiblesses afin que nous puissions faire toujours les bons choix pour glorifier Dieu puis avoir une bonne vie. Et donc, il nous a envoyé sur terre avec notre accord afin que, pour que, vous deveniez conforme à l'image de son Fils. C'est-à-dire que nous sommes arrivés sur terre et nous n'étions pas conformes du tout à l'image de Jésus-Christ. Mais il nous a envoyés sur terre pour que justement nous devenions conformes à l'image de Jésus-Christ. Alors maintenant c'est très profond parce que l'image de son Fils, c'est l'image du Dieu invisible. C'est pas rien. On va le lire dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, verset 10. Écoutez ça. Tout cela afin que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur, en le satisfaisant en tout, étant fructueux en toute bonne œuvre, c'est-à-dire en portant beaucoup de fruits, des choses, le résultat de vos actions, de vos paroles, et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié avec toute puissance selon son pouvoir glorieux, en toute patience et longanimité et avec joie. Remercions le Père, lequel nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité, et qui nous a transférés dans le royaume de son cher Fils, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. Son Fils est l'image du Dieu invisible. c'est pas rien. Il est l'image du Dieu invisible. Quand vous avez la connaissance de la volonté écrite de Dieu, parce que vous ne pouvez pas avoir la foi sur l'imagination. Je vois que très souvent des païens se moquent des chrétiens en disant « Oh, vous avez un ami imaginaire ». Non, nous n'avons pas un ami imaginaire. Notre ami, notre Dieu, est une personne qui est venue à notre rencontre, qui nous a parlé, et on sait ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit, quand on en pratique, on voit que ça marche. Ce n'est pas dans notre imagination. Quand nous avons connaissance de la volonté écrite de Dieu et la compréhension spirituelle de cette volonté divine, c'est ce qu'on vient de lire, hein, je paraphrase, c'est tout, je ne fais que de paraphraser, alors vous avez le pouvoir de marcher de manière digne du Seigneur. Verset 10, ça c'est ce qu'on vient de lire. C'est quand on apprend qui on est, qui est Dieu, qu'on se met à marcher d'une manière digne du Seigneur. Vous avez le pouvoir de marcher, ça veut dire quoi? Vous avez le pouvoir d'aller de l'avant, vous avez le pouvoir de progresser en le satisfaisant en tout, en étant fructueux de toutes sortes de bonnes œuvres, toujours dans le verset 10. Ça, c'est ce que nous apprenons, et quand on le sait, alors on peut le vivre, mais quand on ne le sait pas, ben on va tous les dimanches poser son derrière à la messe, puis on s'embête comme des rats morts, on sort de là, puis il n'y a rien qui change, quoi. Hein? Ou pas grand-chose. Et puis ensuite il dit, et vous croissez dans la connaissance de Dieu. Et dans le terme de la connaissance, ça veut dire dans la relation avec Dieu. Vous croissez dans votre relation avec Dieu. Vous vous approchez de Dieu, il s'approche de vous. Vous vous connaissez, enfin lui vous connaît parfaitement, mais vous, vous commencez à le connaître de mieux en mieux pour pouvoir satisfaire sa volonté de mieux en mieux. Et vous faites des progrès. Chacun fait des progrès à sa mesure, selon les capacités que Dieu lui a données à sa naissance. Et vous n'avez pas à vous comparer aux autres, simplement vous faites le mieux possible les choses que se trouvent à faire, et puis vous progressez à votre vitesse. Et puis voilà, puis tout le monde est content. Et vous êtes fortifié avec toute sa puissance, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui vous fortifiez, c'est lui qui vous fortifie, selon son pouvoir glorieux, verset 11. Mais encore faut-il y croire. Est-ce que vous croyez que Dieu s'amuse à vous fortifier selon son pouvoir glorieux? Si vous le croyez, ça devient une réalité. Si vous ne croyez pas, ben... Mais vous ne pouvez pas le croire si vous ne le savez pas. Mais maintenant, vous le savez, parce que je vous l'ai dit. Si vous ne l'avez jamais lu, ou si vous ne l'avez jamais compris, maintenant vous le savez. Vous êtes fortifié avec sa toute-puissance, selon son pouvoir glorieux. Est-ce que vous avez conscience de la portée de ce que cela signifie? Ça veut dire que vous n'êtes pas comme les humains basiques. Vous êtes une nouvelle création qui évolue par le pouvoir de Dieu qui est en vous. Vous vous rappelez, dans les précédentes prédications, je vous ai démontré que Dieu vit en vous. Il ne vit pas en vous, coincé entre votre estomac et votre rate. Non, c'est en esprit qu'il vit en vous, afin justement de vous transformer et de vous emmener à être conforme à l'image de Jésus-Christ. Regardez comment était Jésus-Christ, c'est le modèle, et ben c'est ce que vous êtes en train de devenir. Il vous rend capable de marcher d'une manière digne de lui, parce que vous êtes une nouvelle créature qui évolue par le pouvoir de Dieu qui est en vous. C'est miraculeux. Mais ça marche avec la foi. Si vous n'avez pas la foi en ça, si vous ne croyez pas ça, ben vous avez une religion morale, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Mais c'est tellement pauvre. Alors il vous fortifie, c'est ce qu'il nous dit, patiemment. C'est-à-dire qu'il est très patient. Parce que bon, Il nous fait comprendre quelque chose, on dit ah oui, amen, j'ai compris. Et le lendemain, tout est à refaire. Et puis il nous réexplique, il permet que ses serviteurs vous prêchent afin que vous compreniez mieux, il permet qu'il y en ait qui écrivent des livres pour que ça rentre petit à petit, et puis vous faites des progrès petit à petit, c'est pas d'un coup de baguette magique comme ça que les choses se font, et Dieu le sait, alors il est patient avec nous, heureusement, il est patient. Il a envers nous une attitude patiente et clémente. Alors qu'il pourrait très bien, vous savez, il pourrait très bien nous punir à chaque fois qu'on fait quelque chose, une bêtise. Ouais, je t'ai expliqué, puis t'as pas compris. Là. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est ce que signifie le mot longanimité qu'on trouve dans la Bible. L'autre jour, une sœur, c'est Liliane, elle m'a envoyé une vidéo où on voit un gros chat, et enfin c'est une chatte plus exactement, puis elle a son chaton à côté qui n'arrête pas de la mordiller, de tirer sur l'oreille, et le gros chat simplement il le repousse comme ça. Il a de la longanimité. Le lion fait la même chose. Vous avez vu, moi j'ai déjà vu des reportages, le petit lionceau, il vient, puis il mord sa maman et tout. Sa maman met un coup de griffe et elle pourrait le déchiqueter. Non, elle montre de la longanimité, c'est-à-dire de la patience. Elle dit, bon, ben, c'est un petit, voilà, il va grandir et puis ça va aller. N'empêche que ça lui fait mal quand même d'être mordillé parce que, vous savez, les animaux, quand ils sont petits, ils ont des dents très pointues. Je me rappelle de Sévrus, hein, quand il nous mordillait, c'était quelque chose. Eh bien, les lionceaux et les chats, c'est la même chose. Et Dieu, ça l'embête qu'on le blesse comme ça tout le temps avec nos bêtises. Mais il a de la longanimité. Il ne va pas nous punir et nous détruire. Non, 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 non. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Il aime sa progéniture. Nous sommes sa progéniture, nous sommes ses enfants. Et il subit patiemment les actes des morveux que nous sommes. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et ce matin, eh bien, nous sommes ici, c'est dimanche, c'est normal, nous lui rendons un culte d'adoration, de reconnaissance, nous lui rendons grâce pour toute sa bonté envers nous, parce qu'il nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. L'autre jour, en faisant de l'ordre dans un vieux papier, j'ai retrouvé toutes mes affaires militaires, mes papiers, mes certificats, mes machins, j'ai retrouvé entre autres le fait que je suis exempté de la taxe militaire, parce que quand on était à l'étranger, on doit payer une taxe pour l'armée suisse, et là j'en suis exempté parce qu'ils ont jugé que ce que je faisais en France était bon. Alors les Suisses trouvent que ce que je fais en France est bon, puis il y a des Français qui viennent m'insulter en me disant que je suis un escroc, ceux qui me disent ça, je les vire, je préfère la vie des Suisses, et ils sont beaucoup plus sérieux et rigoureux dans leurs enquêtes que ceux qui me taxent d'escroc simplement parce qu'ils voient que je suis pasteur. Alors, il nous a rendu aptes, et dans mes papiers, j'ai vu que c'était marqué « aptes au service ». Alors, tour de thorax, temps, tour de bras, tu te rends compte, Stéphane, 24 cm. À l'âge de 20 ans, je faisais 24 cm de tour de bras. C'est horrible. C'était comme ça, j'étais tout maigre, tout maigre. Mais j'étais apte quand même au service. Eh bien là, c'est Dieu qui nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints dans la lumière, c'est-à-dire à l'héritage que possèdent les saints qui évoluent dans la lumière. C'est ça que ça veut dire. Nous sommes aptes à participer à tout ce que les saints, ça veut dire ceux qu'il a mis à part. Ce n'est pas les saints avec l'auréole que le pape a canonisé ou que sais-je, ça c'est des inventions humaines. Les saints, c'est ceux qui sont mis à part par Dieu, qui ont été choisis dès avant la fondation du monde, qui ont été prédestinés, qui ont été appelés, c'est vous, c'est moi, nous sommes des saints. Et je trouve que, bon, les Mormons, ils ont vraiment trouvé un nom idéal, les saints des derniers jours, ça je trouve génial. C'est génial parce que on est dans les derniers jours et eux, ils savent que voilà, ils sont les saints des derniers jours. Mais nous aussi, on est les saints des derniers jours dans ce sens de la vérité biblique. Pas qu'on fasse partie de leur dénomination. Alors, étant aptes, nous détenons la capacité, Dieu en juge, et trouve que nous détenons la capacité et le droit Et nous avons les dispositions pour être héritiers de tout ce que Dieu tient en réserve pour les siens. Il nous juge compétents et appropriés, vous voyez tous ces mots, c'est des synonymes, capables, tenez-vous bien, de gérer cet héritage, parce que quand on fait un héritage, voilà, vous en avez qui le dilapident, et puis vous en avez qui le gèrent, hein, qui le font fructifier. Alors il nous rend capables de faire fructifier, c'est pourquoi il dit que nous sommes fructueux. Nous sommes capables de gérer l'héritage des saints, c'est-à-dire de ceux qu'il a mis à part. Nous sommes aptes, non pas par notre propre pouvoir ou par nos propres mérites, mais parce que de sa propre volonté, il nous a rendus aptes. C'est lui qui a fait cette œuvre en nous. Et ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Il fait pas, il commence pas quelque chose sans l'achever. Il nous a donné les qualités nécessaires pour être héritiers, pour gérer cet héritage, et nous avons donc les qualités juridiques requises pour pouvoir agir dans son royaume. Parce qu'ici, nous sommes dans son royaume. Il est notre roi. Les gens ne le voient pas, mais nous savons qu'il est notre roi et nous savons que nous sommes ses sujets. Et nous avons des responsabilités dans son royaume. Nous sommes aptes parce qu'il nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité. Tout ça, c'est ce que je viens de vous lire tout à l'heure, hein, mais je vous le paraphrase. Il nous a délivrés des ténèbres qui enveloppent le monde et les gens du monde, les incrédules et tous ceux qui ne veulent pas de lui. Ils sont dans les ténèbres et ils pensent qu'ils sont dans la lumière. Hein. Ah, ils sont sûrs qu'ils sont dans la lumière. Enfin. Il nous a transférés dans le royaume de son cher fils, c'est-à-dire que nous étions dans un royaume de ténèbres, d'obscurité. Excusez-moi, mais maintenant ça devient de plus en plus ténébreux, de plus en plus obscur dans ce monde. Mais Dieu nous a transférés de ce monde-là dans le monde de sa lumière, de la lumière du royaume de son fils bien-aimé. Donc on a changé de royaume, on a changé de maître, on a changé de roi, on n'est plus dans ce monde de ténèbres, c'est pourquoi il dit, bon, vous êtes ici, mais vous n'êtes pas d'ici. D'accord ? En Jésus, son cher fils, nous avons la rédemption en son sang. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire la rédemption. Le mot rédemption signifie rachat. Rachat. On achète, on rachète une chose. Nous lui appartenions, le diable nous a volé, et lui nous a racheté, il a payé le prix. On va lire Romains chapitre 3, verset 23-24, pardon. 3, non, voilà, qu'est-ce que je vous raconte ? Romains 3, 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. C'est impossible, quand on est dans le péché, d'atteindre la gloire de Dieu. Mais étant justifié gratuitement par sa grâce, c'est-à-dire c'est un cadeau, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, lequel Dieu a établi pour être une propitiation par le moyen de la foi en son sang, pour déclarer sa droiture pour la rémission des péchés, qui sont antérieurs par le moyen de l'indulgence de Dieu. Oh, que tous ces mots semblent compliqués, mais il suffit de prendre un bon dictionnaire pour savoir tout ce que cela signifie. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés gratuitement. C'est-à-dire que pour nous, c'est gratuit, mais lui, il a payé. Il a payé le prix, c'est le sang qu'il a versé sur la croix. Et quand on dit, oui, mais Dieu est méchant, il a envoyé son fils pour faire ça, c'est faux. Jésus, c'était Dieu dans la chair, c'était Emmanuel, c'était Dieu avec nous. C'est-à-dire que c'est lui qui est venu, il s'est limité dans un corps humain et il a donné son corps humain comme un sacrifice. Dieu n'est pas cruel pour envoyer son fils faire des choses que lui ne veut pas faire. Ça n'empêche que Dieu n'est jamais mort. Dieu, pendant que Jésus était en train de mourir sur la croix, le Père remplissait toujours encore tout l'univers. Ça, c'est le mystère de l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent, ça c'est une chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi je suis là en ce moment, je ne peux pas être ailleurs. Mais Dieu, oui, il peut faire des milliers de choses en même temps, à des milliers d'endroits différents, ça ne le gêne pas du tout. C'est parce que Dieu est tout puissant. Et sur la croix, c'était Dieu dans un corps, ce corps mourait pour être un sacrifice, de rachat pour notre âme, pour notre être. Et ça, ça nous a rien coûté, c'est lui qui l'a fait. Alors, vous pouvez. Alors, il y a des gens qui pensent qu'en faisant des bonnes œuvres, ils vont pouvoir aller au ciel. Non, vous n'irez jamais au ciel parce que vous faites des bonnes œuvres. C'est par le sang de Jésus-Christ que vous pouvez être racheté et avoir la possibilité d'entrer dans le paradis. Et alors, évidemment, puisque vous croyez que Dieu vous a tant aimé, qu'il est venu pour offrir sa vie sur cette terre afin que vous soyez sauvés, puisque vous le comprenez, ben vous faites des bonnes œuvres pour lui plaire et le glorifier, mais ce n'est pas vos bonnes œuvres qui vous sauvent. Il y a des gens qui pensent « Oh, mais j'ai fait tellement de bonnes œuvres, je suis sûr que je vais être sauvé. » Oh, alors là, ils vont être très déçus, très déçus. C'est par le moyen du rachat, par le moyen de la rédemption, c'est lui qui a payé le prix. Ce rachat, il a été accompli par Jésus qui s'offrait en sacrifice sur la croix, pour nous racheter au prix de son sang. Mais qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Il a tout fait. C'est un salut parfait et complet qu'il a accompli lui-même sans que nous ayons à bouger le petit doigt. Simplement, ce que nous avons à faire, c'est à croire que c'est vrai. Et si nous croyons que c'est vrai, alors il vient habiter en nous et il nous transforme pour que nous devenions semblables à l'image de Jésus-Christ quand il était sur cette terre. Alors ce plan complet a été accompli par lui et par personne d'autre, par amour pour vous et pour moi. Jésus est venu et Paul nous dit qu'il était l'image du Dieu invisible. Jésus, dans ce corps, c'était l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi il dit, il y a un apôtre qui lui dit, mais montre-nous le Père. Et Jésus dit, mais depuis le temps que je suis avec vous, tu n'as pas encore vu, le Père il est en moi, je suis l'image du Dieu invisible. Vous comprenez ça? C'est tellement simple, plutôt que d'inventer une trinité invraisemblable, c'est tellement simple de comprendre que Dieu est omniprésent et qu'il peut être partout à la fois, et qu'il était dans ce corps-là. Et ce corps, c'était l'image. Dieu qui ne veut pas qu'on se fasse une image taillée, ben, il s'est taillé une image à lui, il s'est mis dedans, et il est venu vivre là-dedans, et il était l'image du Dieu invisible. Et il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, c'est-à-dire à être conformes à l'image de Dieu. Il veut que, puisqu'il vit en nous, nous soyons l'image de Dieu. Alors, pourquoi se poser en victime? Jésus a dit, mais c'est pas moi, c'est personne qui prend ma vie, moi je la donne volontairement. Il n'était pas une victime. Pourquoi est-ce que vous vous posez en victime? Dieu est en vous, vous êtes son image, comme Jésus était l'image de Dieu. Alors, si vous ne croyez pas, je vais vous lire le verset, 1 Jean 4, 17, vous le connaissez, je vous l'ai déjà lu souvent. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Mais nous progressons pour arriver à cette image, pour être conformes à cette image. Et personne ne peut être contre nous ou n'a le droit de nous rabaisser. Peut-être que dans la tête des gens, ils nous trouvent idiots et tout ce que vous voulez, mais nous, nous savons qui nous sommes et nous ne nous laissons pas rabaisser. Et personne ne peut être contre nous. Si quelqu'un essaye de se mettre en travers de notre route, il va avoir des problèmes. Parce que ce n'est pas vous qu'il va rencontrer, mais il va rencontrer Dieu qui vit en vous. Il faut que vous pensiez comme ça. Il faut que vous croyiez ce que Dieu dit. Parce que moi je dis, mais ce que Dieu dit et ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Et ce qui va arriver à la personne qui va se mettre en travers de votre chemin, qui va vous persécuter, qui va vous embêter, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va être vaincu. Parce que vous êtes plus que vainqueur par Dieu qui vit en vous et qui vous aime. On dit ça dans Romains 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés. Conquérants ou vainqueurs. Vous avez bien entendu. Les gens et les démons vous estiment bons pour l'abattoir. C'est écrit juste dans le verset juste avant. C'est écrit juste dans le verset avant. C'est 8:37. Nous sommes estimés comme des moutons pour l'abattoir. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants par le moyen de celui qui nous a aimés. Il nous estime comme des moutons bons pour l'abattoir. Estimez, messieurs, dames. Et vous, les démons, vous pouvez estimer ce que vous voulez. Mais non. Ils estiment que vous êtes des moutons sans défense, que vous êtes des moutons idiots, que vous êtes des moutons bêtes, maladroits. Non! Dans tout le mal qu'ils essayent de nous faire, nous sommes vainqueurs et conquérants, et même plus que conquérants. Parce que c'est Jésus qui vit en nous, qui est vainqueur, et il a la toute puissance. Et comment est-ce que nous sommes vainqueurs, et comment est-ce que nous sommes conquérants? C'est écrit par le moyen de notre arme secrète, qu'il ne voit pas, Dieu en nous, Dieu qui nous aime. Ça, il ne croit pas que Dieu est en nous. Il ne croit pas ça, hein. Mais pourtant, c'est la réalité. Et comme Dieu est en nous, il ne le voit pas, il s'attaque à nous. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre une rouste. C'est-à-dire que Dieu va se charger d'eux et les faire passer par toutes sortes de trucs pas possibles jusqu'à ce qu'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, tant pis pour eux. Le diable ne se repentira pas. Les démons ne se repentiront pas. Ça n'est plus possible pour eux. Mais pour les collaborateurs du démon, les gens qui sont mauvais, qui vous font du mal, eh bien, ils ont possibilité de se repentir. Mais encore faut-il qu'ils aient été connus d'avance, encore faut-il qu'ils aient été prédestinés, appelés par Dieu, justifiés par Dieu, en vue de la glorification. Si Dieu les veut pas, ils se repentiront jamais, jamais. Vous pouvez prier pour eux toute votre vie, ils ne se repentiront pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prier pour eux, il faut continuer à prier pour eux. Mais Dieu fera de toute façon ce qu'il veut. Il y en a, il ne les veut pas. Il y a des gens, il ne les veut pas. Ce n'est pas ses enfants, ce n'est pas ses brebis. Il a dit, je suis venu chercher mes brebis. Il nous dit, dans l'évangile de Matthieu, que l'ennemi est venu et il a semé sa semence, c'est livré. Eh bien, Dieu ne veut pas de livré dans son royaume. Livré, c'est le mauvais grain. Il ne veut pas de ça. Donc, vous avez des gens qui vous font du mal, qui peuvent être des chrétiens, ils vont se repentir. Et puis, vous en avez, ils ne sont pas appelés par Dieu, Dieu n'en veut pas, ils ne se repentiront jamais. Mais Dieu va se charger d'eux quand même pour qu'ils arrêtent de vous embêter. On ne sait pas qui est qui, et ça ne nous regarde pas de savoir qui est un enfant de Dieu, qui c'est qui a été appelé, qui c'est qui n'a pas été appelé. Mais on laisse Dieu agir. On laisse Dieu agir et on compte les points. Ça peut être amusant. On compte les points, voilà, c'est tout. Puis on prie. Nous qui avons suivi le bon chemin qu'on trouve résumé dans Actes 2.38, dans Actes 2.38, il y a le résumé. C'est repentez-vous, soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si on a suivi ce chemin-là, eh bien, si donc vous vous êtes repenti de vos péchés, si vous avez été baptisé, c'est-à-dire immergé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, vous avez reçu, c'est-à-dire que vous avez ouvert la porte au Saint-Esprit qui est venu habiter en vous, Dieu est maintenant en vous, et vous n'avez rien à craindre. Mais rien à craindre. Ni les gens, ni les démons, rien ne peut vous nuire. Mais rien. Bon, si vous ne croyez pas, je vais vous le lire dans la Bible. La Bible, quand même pas rien, c'est la Bible qui a raison, c'est pas ce qu'on s'imagine. Hein. Luc 10, 19, c'est Jésus qui parle et qui dit très clairement, voici, c'est Jésus qui dit, aux siens, c'est-à-dire à vous, si vous vous êtes repenti et si vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et si vous avez reçu, si vous avez ouvert la porte au Saint-Esprit, il vous dit, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents, les scorpions, et de piétiner tout le pouvoir de l'ennemi, et rien, sans aucun doute, ne vous fera de mal. Est-ce qu'on va aller s'amuser à piétiner les serpents? Non, ça, c'est une image pour dire, voilà, le serpent, c'est le diable, on a le pouvoir de piétiner le diable, on a le pouvoir de... Voilà, et rien ne peut nous nuire. Et il dit, c'est sans aucun doute, sans aucun doute. Faut pas douter de ça, croyez-le, et vous allez le voir. Mais est-ce que c'est bien vrai, Michel? Si Jésus le dit, c'est vrai. Rien, sans aucun doute, ne vous fera du mal. Rien. Parce que, en réalité, tout est à vous. 1 Corinthiens 4, on va le lire. 1 Corinthiens 4. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Je ne l'ai pas mis. 1 Corinthiens 4, 22-23. Romains. Corinthiens 4, 22-23. Alors il dit, que ce soit Paul ou Apollos ou Cephas ou Osborne ou Branham ou Michel Janton, peu importe, ou le monde, ou la vie, ou la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. L'apôtre Paul est à moi. Et je suis à l'apôtre Paul. Et je suis. Tout est à nous. Mais tout est à vous. Tout est à vous. Vous n'avez rien à craindre. Vous avez à gérer tout ça. Ni les gens, ni les démons ne peuvent vous nuire. Tout est à vous. Le monde est à vous. Il vient de le dire. C'est pourquoi il nous dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Marc chapitre 16, verset 15. Où est-ce qu'il faut aller prêcher la bonne nouvelle? Ben, par tout le monde, n'importe où, prenez un billet d'avion, allez, n'importe où, tout le monde est à vous, le monde entier est à vous. Allez-y, et prêchez la bonne nouvelle. Puis faites un peu de tourisme par la même occasion. Mais il y a certains endroits où il vaut mieux pas aller, c'est dangereux. Alors on attend un peu. Mais tout est à vous, c'est à vous d'avoir la sagesse et de gérer les choses correctement. Servez-vous aussi des richesses entachées d'injustice pour servir Dieu. C'est-à-dire, servez-vous de l'argent pour servir Dieu. Les Bibles, ça se paye. C'est pas que la parole de Dieu est payante, mais le livre, l'imprimeur, tout ça, c'est payant. Alors vous vous servez de l'argent pour... C'est des richesses toujours entachées d'injustice, l'argent. Eh bien, vous vous en servez pour servir Dieu, parce que tout est à vous. Tout est à vous. Et c'est à vous de gérer tout ça. Où est-ce que c'est? J'ai noté Luc 16, 9. Je ne sais pas pourquoi. Luc 16, 9. Je vais vous le lire. Parce que je l'ai noté, ça doit être bien. Luc 16, 9. Oui, c'est ça. Faites-vous des amis du mammon de l'injustice, afin que lorsque vous viendrez à en manquer, il puisse vous recevoir dans les habitations sempiternelles. Ça, c'est un texte qui est presque jamais compris. Ça veut dire, faites-vous les amis avec mammon, c'est-à-dire évangéliser. Par exemple, quand notre frère Philippe il va partir là en Guinée pour son travail, mais en même temps, il va évangéliser, c'est sûr. Mais tout ça, ben, ça coûte de l'argent. Il faut prendre l'avion, il faut payer le visa, il faut payer l'hôtel, ça. Mais avec cet argent-là, il va pouvoir gagner des gens pour Jésus. Et quand l'argent viendra vous manquer, mais quand est-ce que l'argent viendra vous manquer? Ben, quand vous serez mort, vous n'aurez plus besoin, donc vous n'aurez plus d'argent. Mais quand vous n'aurez plus d'argent, eh bien, ces amis-là que vous aurez fait grâce à l'argent, ils vous accueilleront dans le royaume de Dieu. C'est ce que veut dire ce texte. C'est ce que veut dire ce texte. Sans argent, on ne peut pas faire. Mais avec l'argent, on peut tout faire, parce que tout est à nous. Je n'ai pas d'argent. Mais l'argent est à toi, puisqu'il est à Dieu, Dieu peut te le donner. Mais il y a encore des règles pour pouvoir recevoir de l'argent. Bon, d'abord, il faut travailler, c'est la moindre des choses, c'est le minimum. Hein. Et puis après, bon, il y a à la dîme, il y a tout ça, toutes ces choses-là, je vous ai déjà enseigné ces choses-là. Mais il n'y a rien qui ne vous appartient pas, tout est à vous, la vie est à vous. La vie. Alors ne laissez personne bouffer votre vie, votre temps, ni votre sainteté, votre temps et votre sainteté, tout ça c'est à vous, c'est votre vie, c'est à vous. Dieu vous a placé sur cette terre et vous lui appartenez, mais votre vie elle est à vous, elle est à personne d'autre, ne laissez pas les gens vous ruiner votre vie. Et Paul disait, si je vis, c'est pour Christ, si je meurs, c'est pour Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie est à vous, mais la mort aussi, elle est à vous. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Là, dimanche, il y a quelques semaines, le 5, mon épouse est descendue dans la chambre pour donner le petit déjeuner à sa maman, et c'est comme si elle dormait. Elle est partie pendant la nuit, elle est partie vers le Seigneur. Et ben, c'est vrai que ça fait de la peine, mais parce qu'on ne la verra plus, mais n'empêche qu'elle est bien plus heureuse, réellement bien plus heureuse là où elle est. L'apôtre Paul dit, mais moi j'aime bien la vie, mais la mort m'est un gain. Il dit même un peu plus loin, des moments je suis un peu déchiré, je ne sais pas trop quoi choisir, s'il faut vivre ou s'il faut mourir. Parce que la vie, c'est vrai qu'on est utile tant qu'on est sur cette terre, parce qu'on peut faire des bonnes choses, c'est exaltant, c'est bien, mais la mort, c'est tellement mieux. Et c'est à nous la mort. La mort est à nous, c'est pas quelque chose d'effrayant. Bon, ça dépend comment on meurt. Mais c'est pas effrayant. C'est vrai que c'est embêtant de mourir d'une longue maladie ou d'un accident ou parce qu'un espèce de fanatique vous coupe la tête. Mais en réalité, la mort, c'est à vous. Paul, il est mort sacrifié aussi, Pierre aussi, les apôtres, beaucoup de monde. Mais la mort est à nous. Paul disait, la mort m'est un gain. On trouve ça dans Philippiens 1. 21, 23. Ça vous intéresse ce que je vous dis là? Oui. Philippiens 1, 21, 23. Philippiens 1, 21, 23. Il dit, car pour moi, vivre est Christ. Mourir, c'est un gain. Mais si je vis dans la chair, c'est le fruit de mon labeur, c'est-à-dire il aime porter du fruit en travaillant. Cependant, ce que je choisirais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Car je suis déchiré entre deux, ayant un désir de partir et d'être avec Christ, et puis c'est de loin le meilleur. Néanmoins, demeurer dans la chair est nécessaire pour vous. Vous voyez comment il était déchiré là contre Paul. Il dit, je sais pas quoi choisir parce que les deux sont bien. La vie, ça m'appartient, c'est bien. La mort, ça m'appartient, c'est bien. De toute façon, c'est bien. De toute façon, c'est bien. La vie ici-bas, elle est courte, mais la vie après la mort, elle est longue et magnifique. Et elle est à moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ça m'est avantageux de partir. Et ça nous est à tous avantageux de partir si nous sommes à Christ. Alors, les choses présentes sont à vous, dit-il. Les choses présentes. Qu'est-ce que c'est les choses présentes? Ben, c'est par exemple l'électricité plutôt que la lampe à huile. Bon, ben, il y a des pays où c'est encore la lampe à huile, mais ici, on a l'électricité. Ben, c'est à nous, on en fait ce qu'on veut. Les choses présentes. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument avoir une maison moche alors que vous pouvez en avoir une belle? C'est à vous! Il faut gérer tout ça. Vous devez gérer votre héritage donné par Dieu. Et c'est de la gestion. Et c'est intéressant. C'est pas que pour les. Pourquoi est-ce que vous. Les chrétiens pensent que, voilà, les belles maisons, tout ça, c'est pour les païens, pour les satanistes, les incrédules. Mais c'est une conception fausse. Tout est à nous. C'est à nous. Mais les chrétiens n'en veulent pas, c'est dommage, ça c'est tellement plus beau de vivre dans un bel endroit, c'est tellement plus agréable de vivre dans un bel endroit que de vivre dans un endroit moche. C'est comme pour les voitures, les bagnoles, c'est comme pour les voitures, on voit souvent les chrétiens, ils ont des voitures de troisième main, c'est affreux. Pourquoi c'est parce que vous avez, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est que tout est à vous, même les choses présentes, c'est à vous. C'est à vous, mais vous devez gérer de façon à pouvoir les obtenir. par votre foi, par votre intelligence, par vous, c'est à vous de gérer tout ça. C'est à vous. Les belles montres, tout ça, Dieu ne veut pas que vous vous priviez de ces belles choses. Il dit que si on s'occupe premièrement du royaume de Dieu et de sa justice, il nous donnera toutes ces choses par-dessus. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas de ces choses, alors il ne leur donne pas, puis c'est tout. C'est dommage. Les choses à venir sont à vous, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore inventées. Mais vous pouvez les inventer. Toujours, j'ai rencontré un homme, un chrétien, il a inventé un appareil. Vous savez, ces appareils qui servent, vous vous placez contre un mur comme ça, et puis vous l'allumez, puis ça vous donne la distance qu'il y a entre ce mur et ce mur. C'est génial. Mais lui, il a inventé mieux. L'appareil, vous le tenez n'importe où. Et ça mesure la même chose, d'un côté et de l'autre, et d'en haut et d'en bas. Il dit, des fois, on doit mesurer dans des endroits où il faut se tordre pour pouvoir y arriver. Là, avec mon appareil, c'est tout simple. Il l'a inventé, et il se fait du pognon avec ça. Donc les choses à venir, elles n'étaient pas à venir, elles n'existaient pas encore. Il l'a inventé, les choses à venir sont à vous. Mais pas seulement celles que vous inventez, mais aussi celles que les autres vont inventer. Par exemple, là, la chose à venir pour nous, c'est la fibre. Ben c'est bien, pour nous c'est encore à venir, c'est dans un mois ou deux. Mais on est très contents. Tout ça, c'est à nous. Arrêtez de vouloir toujours le plus moche, le moins cher. En fait, quand vous achetez le moins cher, quand vous prenez le moins cher, vous êtes sûr que ça va vous coûter plus cher. Parce que ça sue, ça se fond en l'air, c'est comme ça. Refusez de vivre médiocrement. Tout est à vous. Tout est à vous. C'est ce qu'il dit, pas seulement les choses spirituelles, aussi les choses spirituelles, mais les choses là où nous sommes, là en ce moment, sur cette terre. Moi, quand j'ai compris ça, c'était en 1970, et je me suis mis à agir en conséquence. Les chrétiens critiquaient. C'était Osborne qui avait prêché ça. Les chrétiens critiquaient. Mais moi, tout de suite, je me suis mis à gérer ma vie d'une façon différente, et j'ai progressé. Mais les chrétiens qui critiquaient, en 70, maintenant, ils critiquent plus, hein. Ils ont exagéré. Ils prêchent un évangile d'abondance qui est frelaté, qui est faux, qui n'est pas juste, parce qu'ils ont exagéré, ils ont été dans des voies qui sont pas claires, qui sont iniques. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez dans la pauvreté, il veut que vous soyez dans l'abondance, mais pas dans une abondance inique. Vous voyez, Dieu ne sait pas notre portefeuille, mais tout est à nous quand même, mais il faut être juste. Alors, ce que j'ai voulu, je l'ai eu, puis voilà. Parce que tout est à moi, parce que tout est à vous. Pourquoi c'est à vous? Parce que Christ vit en vous, et tout est à Christ. C'est Paul qui dit ça. Et Christ est à Dieu. Alors je ne crains pas les gens, je ne crains pas les démons, et même s'ils me tuaient, la mort est à moi. Pas à eux, ma mort c'est à moi. Eux, ils n'ont qu'une existence terrestre. Moi, ma mort, c'est juste la continuation glorieuse de la vie merveilleuse avec le Seigneur. Nous avons la vie éternelle, elle est à nous, elle n'est pas à eux. Ils ne l'ont pas. Si tout est à vous, qu'est-ce qui reste aux incroyants, aux apostats, aux adorateurs de l'Antichrist, aux indifférents? Qu'est-ce qui reste aux moqueurs, aux fanatiques religieux assassins? Rien, que dalle, nakache, rien du tout. Des illusions, une grande désespérance. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez comme les païens qui n'ont aucune espérance. Nous avons l'espérance, l'espoir, la foi, nous pouvons gérer tout ça. C'est ça être perdu, c'est ne pas comprendre tout ça et ne pas entrer dans ce plan fantastique. Mais s'ils veulent fouler aux pieds le sang de Jésus, qu'ils le fassent. Dieu, c'est un vu d'autre. Hein. Ils maudissent Israël, qu'est-ce qu'il leur reste? Rien que leur haine. Et puis la malédiction de Dieu, parce que Dieu dit « Je maudirai ceux qui maudissent Israël. » Point final. Ça ne veut pas dire que les Juifs sont parfaits. Dieu lui-même leur reconnaît bien des défauts. Mais on ne doit pas maudire Israël. Voilà, c'est comme ça. Bon, on ne maudit pas Israël, on le bénit au contraire. Eux ne veulent pas. Eh bien, laissez-les se débrouiller. Ils verront, ils se rendront bien compte. Mais un peu tard. Le royaume, c'est celui de l'obscurité, c'est celui du néant. Mais pour vous, Votre Père Céleste a commencé en vous une bonne œuvre et il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Jésus viendra vous chercher, même les œuvres imparfaites que vous êtes en train de faire, il va les rendre parfaites. Même votre imperfection actuelle, parce qu'on n'est pas parfait, au moment où Jésus reviendra, il rendra tout ça parfait. Donc, pourquoi vous allez vous faire du souci ? « Ah, oh, je ne suis pas aussi intelligent que frère machin. Ah, oh, je ne suis pas aussi habile que ce rentre. » On s'en fout. Je fais des progrès. C'est difficile, c'est pas facile. Alors, mais on y arrive, petit à petit. L'oiseau fait son nid, gna gna gna. Et puis voilà. Et puis il faut pas. Mais pourquoi se rendre malade ? Pourquoi douter ? Jésus dit, sans aucun doute, rien ne peut vous nuire. Alors, allez-y, mollo, allez-y à votre vitesse. Mais allez-y, avancez, marchez, faites des progrès. Parce que c'est lui qui est l'auteur de tout, il vous a créé comme vous êtes. Il aurait pu vous créer autrement, il vous a créé comme vous êtes. Bon, ben, vous dites, ben, moi, s'il m'avait créé comme avec le corps d'Arnold Schwarzenegger, ce serait mieux. Oui, peut-être. Je ne sais même pas, vous voyez, finalement. Et il vous a appelé, et il est fidèle, et c'est lui qui fera tout, qui rendra tout parfait à la fin. Donc, soyez en paix. Soyez en paix. Paix. Vous pouvez aller lire ça dans 1 Thessaloniciens 5:24. Allez lire vous-même dans votre Bible que vous devriez avoir. Si vous n'avez pas de Bible, il faut vraiment vous en procurer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur de garder mes frères et mes sœurs dans la foi que vraiment tu as tout accompli et que tout est à eux et qu'ils doivent gérer maintenant avec l'aide de ton esprit dans l'honnêteté, dans la vérité, avec amour et aussi avec longanimité. Merci Seigneur de nous aider tous à faire ta volonté d'une façon correcte dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Au revoir. Dieu vous garde.